C'est maintenant le moment de passer à l'interview de notre invité Stéphane Bijard. Rebonjour.
Bonjour les entonnoirs.
Alors on vous reçoit aujourd'hui parce que vous avez sorti un livre qui s'appelle De l'ombre à la lumière du Nord, mais écrivain, c'est pas votre métier. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Eh bien, Bijard, Stéphane Bijard ?
Ou Béjard ?
Non, pas Béjard. Ouais, j'aurais aimé.
C'était un grand homme.
Ah oui, c'était un grand bonhomme celui-là aussi. Enfin, il y a eu Bigard, il y a eu Bijard, il y a eu Béjard.
Général,
voilà, c'est pour ça. Non, moi, ça fait 30 ans que j'accompagne des entreprises ou des salariés ou des équipes pour les aider à mieux vivre au sein de leur entreprise. C'est surtout ça, mon job, quoi.
Ok, d'accord. Par quoi on commence, Florent? Est-ce que tu as une question? Est-ce que tu veux que j'y aille? Est-ce que... Alors, parle bien dans le micro, par contre.
Alors, est-ce que vous avez écrit d'autres livres sur le sport que celui-là?
Ben non, c'est le premier.
Ah, c'est le premier.
C'est le tout premier livre que j'écris.
Tant pour moi.
Alors, pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour sortir ce livre qui parle d'une histoire qui s'est déroulée il y a presque 25 ans maintenant?
Ben, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que quand j'ai commencé à vivre cette aventure il y a 25 ans, personne ne le savait, puisque même à l'intérieur du club, c'était très secret. Et même pour le groupe public, c'était très secret. Donc, personne n'avait le droit, entre autres, de savoir ce que je faisais, parce que c'était mal vu d'accompagner des clubs comme ça. Ça faisait un peu gourou, qui sait ces gens-là, etc.
Vous mettiez à l'écart des joueurs et en même temps très proche de M. Daniel Leclerc. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, très bien. Et donc justement, c'était très secret. Donc moi, j'étais plutôt l'oreille et l'accompagnant de Daniel Leclerc, l'entraîneur, vous l'avez compris. Et j'étais pas en relation avec les joueurs du tout. Donc c'était plutôt le manager que j'accompagnais. Donc tout ça, ça se faisait un peu dans le secret, quoi.
Alors attends, Florent, je vais peut-être résumer un petit peu quand même le bouquin pour les auditeurs qui prennent l'émission et qui ne savent pas de quoi on parle. C'est un livre donc qui parle de Axel Coban. Donc
c'est, oui,
c'est un nom d'emprunt.
D'emprunt, oui.
Qui accompagne donc le coach du Racing Club de Lens, Denis Linek, dans le livre, mais qui est en fait Daniel Leclerc.
C'est ça.
Jusqu'à la victoire du titre de champion de France.
On connaît la fin en fait. Hein.
Ben c'est ça. Mais pour autant, il y a un côté palpitant quand même, et on a envie d'aller jusqu'au bout pour savoir comment ça se passe,
les coulisses.
Moi, je voulais savoir par exemple comment s'était passé le retour de Auxerre jusque Lens, parce que je t'avoue que j'étais moi parmi les... J'avais 18 ans, et j'étais dans les rues de Lens avec mes potes. On a escaladé les grilles du stade Bollaert avant qu'il les ouvre pour pouvoir aller dans le stade en espérant que les joueurs viennent. Donc j'ai vécu, moi, cette nuit-là, c'était une des nuits les plus marquantes de ma vie. Est-ce que tu peux nous raconter la tienne?
Alors, juste avant ça, je vais finir juste pourquoi j'ai écrit le livre. C'est qu'en fait, il y a quelques années, en 2018, Daniel a écrit un livre où il parle de moi. Donc à ce moment-là, je me suis dit, j'ai le droit de le faire. Et quelques mois avant sa mort, je l'ai rencontré, je lui ai demandé, je lui ai posé la question, il m'a dit tu peux l'écrire. Et il est mort en manière précipitée d'une embolie pulmonaire, et donc à Bollaert ce jour-là, lors d'un hommage qu'on lui a rendu, je lui ai dit je vais l'écrire ce livre. Donc voilà, ça a été ça l'élément déclencheur. De pour lui rendre hommage aussi de ce grand bonhomme, quoi. Et alors pour répondre à ta question sur le retour de Bollaert, le retour à Bollaert, parce qu'en plus c'était pas prévu dans la nuit qu'on rentre à Bollaert, mais comme on savait qu'il y avait des gens qui arrivaient de partout à l'aéroport, sur la route 1 qui avait été fermée, enfin des dizaines de milliers de personnes dans toute la région, on a réussi à convaincre le maire de l'Hélice à l'époque, André de l'Hélice, d'ouvrir le stade pour éviter que ça soit le bordel dans les rues, parce que ça aurait pu mal tourner. Et en fait, pas du tout, parce qu'il y avait une telle ambiance festive que c'était magique, quoi.
Et puis,
c'était
dès la fin du coup de sifflet final, c'était le bordel dans tout le Nord-Pas-de-Calais.
Et donc, tout ça pour te dire qu'on a vécu le retour, nous, alors, la victoire de manière grandiose, mais le retour, ça a plutôt été un moment, toute cette nuit, un petit peu tendu pour nous, parce qu'il y avait une telle effervescence populaire qu'on avait quand même peur de qu'il puisse y avoir des choses qui tournent mal, notamment quand on est arrivé à l'aéroport, il y avait des grandes baies et il tapait sur les baies, on s'est dit elle va nous écouler sur la tête, quoi. Par exemple.
Fred,
vas-y.
Mais en fait, moi, récemment, c'est-à-dire il y a 10 ans, j'ai connu quelqu'un qui allait au match Lille-Lens, mais à Lille-Lens, c'est pas comme les autres matchs. Ça s'insulte. Ouais. Ça s'insulte de sale, de sale,
ouais,
insulte.
Mais c'est
autant
vrai.
Les Lensois sur les Lillois que les Lillois sur les Lensois. C'est vrai, je me trompe pas.
C'est vrai.
Comment ça se fait, ça?
C'est tous les derbies dans le monde, je crois. Tous les derbies, il y a une confrontation. Alors, je pense qu'au-delà des clubs, c'est des luttes de classe, c'est des luttes de je sais pas trop quoi. Enfin, c'est pas forcément le plus beau côté du sport. Hein.
Ah non, mais justement, je tenais à le signaler parce que je trouve ça inadmissible.
Ouais.
Moi, je rêvais quand j'étais tout petit d'aller au stade. Du coup, j'ai plus envie.
Parle dans le micro, Fred, par contre.
J'ai plus trop envie d'y aller. Là.
Alors, venez à Bollard dans un match normal et vous verrez que c'est super.
C'est vrai que le dernier derby à Bollard, c'est pas assez moyen.
Voilà, mais évitez bon. Les derbies, mais dans tous les stades, hein, j'allais dire.
Florent.
Une question à vous poser. Justement, pourquoi vous déformez les noms des joueurs et pas ceux des joueurs adverses, Marco Simonet.
Enfin, bravo, bien vu. C'est un souvenir, ouais. En fait, il y a deux raisons. La première, c'est que quand j'ai commencé à écrire, j'ai pris le vrai nom des vrais joueurs, le Stade Bollard, Daniel Leclerc, etc. Et puis je me suis vite un peu trouvé bloqué parce que tout est vrai, mais il y a quand même des choses qui sont arrangées pour l'histoire, pour le roman, quoi. Et
alors oui, par exemple, les corons de Pierre Bachelet, c'était pas du tout le champ officiel.
Exactement. Donc en 98, les corons n'existent pas à Bollard, quoi. C'est un exemple typique pour les... Il y en a peu plus qui s'en rendent compte, mais les puristes le savent.
Et en fait,
donc par rapport à ça, il y a des choses qui bah ouais, mais c'est pas la vérité, etc., etc. Donc, et c'est marrant parce que je suis allé voir le film Aline de Céline Dion, oui, écrit par Valérie Le Mercier, et elle a eu la même logique. Elle a commencé à écrire normalement, et puis elle s'est dit non, je peux pas raconter Céline parce que c'est pas complètement son histoire. Et ça a libéré en fait l'écriture de pouvoir avoir des noms d'emprunt. Alors par contre, ce que vous avez dit est pertinent, c'est que j'ai gardé des noms d'emprunt pour l'équipe, mais pour que ce soit quand même très vrai, à chaque fois même quand je parle des noms de joueurs anciens à Lens, j'ai pris les bons. Et tous les adversaires, j'ai pris les bons. Par contre, j'ai pas pris le nom des clubs. J'ai pris Paris, Marseille, Nantes, sans parler du nom, ouais, des clubs. Parce qu'après, il y a des problèmes de droits d'image, en plus. Donc, voilà.
J'imagine que, hormis le titre de champion de France, la finale de la Coupe de la Ligue, ça vous évoque quand même des souvenirs sympas. La finale de la Coupe de la Ligue perdue, ça reste un souvenir. La finaliste, c'est quand même grand.
Ah, sympa, je sais pas. Moi, j'étais au stade aussi ce soir-là. Je peux
alors,
dire. C'est...
c'est parce que là, on parle de la. Nous, on a perdu la finale de la Coupe de France cette année-là.
Et on gagne la Coupe de la Ligue l'année d'après.
Et on gagne la Coupe de la Ligue l'année d'après. Par contre, on perd en demi-finale de la Coupe de la Ligue contre Paris.
Exact.
Donc, mais c'est la Coupe de France qu'on perd. Et en fait, alors ça, c'est très très facile à expliquer pourquoi on la perd. C'est que le Stade de France venait d'être inauguré. On n'existait pas. Hein. C'est la première fois qu'on avait un stade de 80 000 personnes en France. Paris avait déjà joué la finale de la Coupe de la Ligue 15 jours avant. Donc eux, ils connaissaient le Stade de France. Et nous, on est arrivés dans un stade qu'on ne connaissait pas. Et la plus grosse bêtise qu'on a fait, c'est de pas arriver la veille au soir pour le découvrir. Parce que je me souviens encore, quand on arrive dans ce stade, c'était waouh, quoi, comme ça. Et en fait, je pense que tous les joueurs ont fait waouh aussi, quoi. Et peut-être que le match aurait duré une demi-heure de plus, peut-être qu'on aurait gagné le match. Mais, ouais, mais celui-là, on l'a perdu.
Ouais, vous avez du mal à vous acclimater au stade.
Exactement, ouais, ça a été vraiment une claque de découvrir cette enceinte. Alors que maintenant, on a l'habitude, hein, des années plus tard, il s'est passé tellement de choses au Stade de France. Mais à l'époque, c'était une vraie, vraie découverte, quoi.
Alors comme tu le dis, c'était il y a des années, hein, c'était en 97-98, aujourd'hui le football a beaucoup changé, c'est quelque chose dont tu parles, je sais plus si je te vous vois ou si je te tutoie, mais c'est pas
grave. Vas-y.
Et ma question c'est, le foot est-il encore un jeu?
Ben, je pense que tant qu'il restera un jeu, il amusera tout le monde, et puis de temps en temps il devient plus du tout un jeu. Et à ce moment-là, ça fait chier les gens. Et moi, le premier. Alors, on voit bien qu'à un moment donné, quand la compétition reprend son droit, le jeu reprend son droit. Mais je suis complètement en phase avec ce que tu partages là, c'est que on finit par avoir des gros problèmes de gros sous, de gros problèmes d'enjeux, de gros problèmes de tout. Enfin, bon. Et ça devient plus du jeu.
Oui, et puis par exemple, un club comme le PSG, pour qui vendre des maillots, c'est plus important que de gagner des titres.
Je crois qu'on a une vraie difficulté à Paris, c'est qu'on y met beaucoup de moyens, mais en fait, l'actionnaire prioritaire n'en a rien à foutre du football.
Ouais,
c'est ça. Il a utilisé le club comme un magnifique tremplin, un ambassadeur mondial de sa communication, pour montrer qu'ils sont beaux, propres, etc. Mais le foot ne les intéresse pas. Et tant qu'ils ne seront pas intéressés par le foot, je ne suis pas sûr qu'on aura des titres.
Florent.
Ah, une question à vous poser. Que pensez-vous de l'épisode, ça vient de moi, hein. L'épisode de Banek pendant la Coupe du Monde 2010. Est-ce que vous pensez qu'il est trop laxiste, en sachant que Daniel Leclerc était trop sévère au départ?
Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec Domenech en 2010?
La communication, est-ce que c'est...
Alors, j'ai pas envie de parler de Domenech. Vraiment. Parce que pour moi.
Il a touché 800 000 euros pendant 6 mois d'Acédic après ces fiascos en Amérique
du Nord. Okay, alors Stéphane, tu
non, j'ai pas envie d'en parler parce que pour moi c'est un hors sujet quoi. C'est pas un homme adapté. Même son titre, c'est pas lui qui l'a gagné, c'est les joueurs qui sont revenus en équipe à l'époque. Et je sais trop de choses sur ce qui s'est passé en Afrique du Sud parce que je connaissais plein de gens qui étaient dans les coulisses pour en parler.
Mais on veut savoir.
Non.
Merde.
Ça n'a aucun intérêt. Non, je préfère parler de ce qui marche que de ce qui marche pas parce que, et je trouve ça lamentable que des gens comme ça puissent s'exprimer tous les jours dans les médias alors qu'ils sont loin d'être exemplaires sur ce qu'ils ont fait et partagé avec leurs joueurs.
C'est vrai qu'on le voit beaucoup sur la chaîne L'Équipe TV,
par exemple.
Il faut retenir de lui qu'il nous a emmené en finale en 2006, quoi. Les gens oublient qu'il nous a emmené en finale en 2006.
Oui.
Ça, faut pas oublier, quoi. Faut pas oublier. Il fait le boulot pour arriver presque au bout.
Je pense que c'est quand même plus Zidane qui nous emmène en finale.
Je pense que c'est Zidane qui prend. D'ailleurs, dans l'article qui est super sur le hors-série sur Zidane, il explique parfaitement comment ça se passait à l'époque avec Domenech entraîneur qui ne servait à rien. Ouais. Et c'est eux qui avaient pris les clés et c'est eux qui ont tout fait et c'est eux qui ont tout géré.
Ah, mais les joueurs, c'est un peu pardonnez-moi le vocabulaire, mais c'est un peu des cons. Mais les vrais et Anelka, ils ont déconné aussi. Evra a déconné.
Non. Non, mais il faut savoir ce qui s'est passé en interne.
C'est que nous, on ne sait pas, Florent, en fait. Tu vois, on ne sait pas, nous.
Mais j'ai pas envie d'en parler maintenant, on va pas faire le débat sur Domenech pendant cette émission.
Alors, moi, j'ai une question sur un autre petit bonhomme, c'est Yoda, que vous citez à un moment dans le livre. Alors, j'avais deux questions, c'était pourquoi avoir cité Yoda, ce qui est très bien. Et deuxième question, est-ce que vous pensez que Yoda ferait un bon entraîneur?
Alors Yoda, pour ceux qui connaissent, expliquez qui c'est quand même, parce que les auditeurs ne savent pas forcément.
Alors Yoda, c'est un maître Jedi dans Star Wars, de George Lucas et maintenant de Disney malheureusement. Et, ouais, c'est vrai. Et en fait, donc c'est un maître Jedi qui dispense le savoir Jedi.
Alors c'est pas notamment Luke Skywalker. C'est le maître Jedi. Ouais. Et alors pourquoi? Bah parce que justement c'est tellement de sagesse tout ce qu'il enseigne, et c'est, on est vraiment là sur le thème en lien avec le livre, c'est de travailler les forces, développer ses forces, mettre en valeur ses forces, et lui il dit do or do not but don't try, donc tu fais ou tu fais pas mais t'essaies pas et tu donnes tout. Alors en grand entraîneur, bah quand on voit ce qu'il a fait avec Anakin Skywalker pour en faire un des Jedi magnifiques, ça a été son padawan quand même, il l'a bien formé je trouve, non? Donc oui, c'est une vraie référence de sagesse et de management probablement, parce que il accompagne, il transmet, et à un moment donné il se retire. Enfin, c'est un exemple parfait, quoi. Bon, bien, merci de l'avoir vu, c'est très beau. Vraiment,
merci,
c'est vrai.
Vous.
C'est la première fois qu'on me fait référence à Yoda, et pourtant je trouve qu'il est important dans le livre.
Florent, d'autres questions?
Est-ce que vous travaillez toujours dans la com ou c'est terminé?
Toujours.
Et dans le sport, plus maintenant.
Pour l'instant, non.
Ah bon, d'accord.
Enfin,
je sais ou je ne sais pas, je fais ou je ne fais pas.
Do or do not, but don't try.
C'est à ma traduction française.
Oui, c'est ça.
Pour quel autre club ou sportif tu as travaillé?
Alors, j'ai travaillé à l'époque dans le tennis un petit peu, à la Fédé française de golf. J'ai travaillé dans la Formule 1 aussi à l'époque, de Schumacher. Pour l'équipe Benetton, enfin dans différents univers comme ça, ouais, c'était passionnant.
Vous avez un très bon anglais.
Non. Non, pas vraiment. Non.
Et est-ce que vous étudiez dans vos séminaires de communication les états de moi du Freud?
Alors plutôt que Freud, moi je suis plutôt ouvert sur Jung.
Jung, d'accord.
Parce que Freud, ça a été un psychanalyste qui a essayé de comprendre les états du moi, mais surtout les mauvais côtés du moi, parce qu'il a quand même essayé de creuser toutes les difficultés de chacun, et toutes les psychoses et toutes les névroses, enfin tout ce qui est plutôt pas terrible chez chacun, en essayant de les aider. Alors que Jung, qui était son petit padawan à lui aussi, 20 ans plus jeune, est devenu son assistant, mais ensuite le grand Gustav Jung, qui lui, au contraire, travaillait sur les forces. Donc je suis plus sensible à Jung qu'à Freud.
D'accord, tout à fait d'accord.
Et j'avais une question. Quel est votre meilleur souvenir durant votre carrière, aussi bien que ce soit au foot que dans les autres sports?
Carrière?
Oui.
Waouh, magnifique question. Alors j'ai un souvenir. Ça fait 30 ans que j'accompagne des entreprises, que je fais des séminaires, que je fais des conférences, et je pense que le plus beau souvenir que j'ai, c'est d'avoir fait une intervention. Je faisais une conférence à Disney. Pour une entreprise que vous connaissez peut-être qui s'appelle Micromania, qui vend des jeux vidéo.
Bien sûr.
Voilà. Donc il y avait tous les directeurs de magasins de France, parce que je connaissais bien le directeur de l'enseigne. et qui m'a demandé d'intervenir dans cette convention, entre guillemets, avec mon fils. Et donc, on a fait une conférence à deux, mon fils et moi, face à ce parterre. Alors, pourquoi? Parce que mon fils Romain est un...
Gamer.
Alors, non seulement un gamer, mais il est plus qu'un gamer. C'est surtout une icône de LOL, League of Legends.
D'accord.
Et qui fait partie, qui manage aujourd'hui une équipe qui s'appelle G2, et qui est une des plus grosses équipes européennes et mondiales, et qui fait le clown en permanence sur toutes les scènes du monde, pour les championnats du monde, championnats d'Europe, Bercy, etc. Et donc, il était tellement connu du monde du jeu chez Micromania. En fait, il m'a dit, est-ce que ça serait bien que ton fils vienne aussi? Et on a fait justement une mise en scène à deux. Et j'étais tellement fier de pouvoir intervenir avec mon fils. Ce qui était assez drôle à la fin, c'est que les 600 personnes qui étaient dans la salle, ils voulaient tous faire des photos et des dédicaces avec mon fils, mais pas avec moi, quoi. Mais en même temps, j'étais super content.
Il vous a volé un peu d'ator.
Ah, il a pas volé parce qu'il est brillant dans ce qu'il fait. Et en fait, on parlait justement des points forts de management, ce que lui a su faire dans son univers aussi, en accompagnant des équipes professionnelles de jeux vidéo.
C'est bizarre, ça inspire la com alors.
Donc voilà, exactement. Donc ça, c'était un.
Le palais de l'euro féminin qui va se tenir en Angleterre, donc en 2022 de cette année. Très bientôt, ça commence le 6 juillet pour se terminer au 31 juillet. Alors, les matchs auront lieu dans 9 stades différents, donc en Angleterre, et c'est une compétition qui se tient tous les 4 ans. Alors, je vais faire un petit peu énumérer les équipes qui sont dans les 4 groupes. Je vais commencer par le premier, forcément, l'Angleterre, pays hôte, affrontera l'Autriche le 6 juillet, pardon. Et pour compléter ce groupe-là, l'Irlande du Nord est venue aussi se greffer avec la Norvège. Donc voilà pour le premier groupe. Maintenant, le groupe de la mort, comme on l'appelle dans le monde du sport.
Groupe de la mort, c'est
ça? Groupe de la mort. ouais. Danemark, dernier finaliste il y a 4 ans, en 2018. La Finlande, la grande inconnue du groupe. Et enfin, l'Allemagne et l'Espagne. Seulement Vicky Lozadas, voulez-vous l'Espagne?
Ah, l'Espagne, c'est pas une petite nation.
L'Allemagne a gagné 8 titres en tout, c'est le record absolu en Europe. Voilà, pour les Allemandes. Le groupe C maintenant, les Pays-Bas tenant du titre, qui ont battu le Danemark 4-2. Donc, dernier euro qui a précédé. Et le Portugal, alors, le Portugal, c'est une sombre et heureuse nouvelle à la fois, parce que la Russie s'est fait éjecter du tournoi. Et donc, ils ont pensé à faire revenir les Portugaises à leur place. Voilà, mais Nick Poutine. C'est vrai qu'il comprend le français, mais je m'en fous. Hein. Il n'a pas se déplacé pour m'exécuter. Donc,
Si tu nous écoutes, Poutine.
Voilà, ils comprennent le français, tant mieux. La Suède, il faut se méfier des équipes nordiques, toujours. Voilà, la Suède, surtout chez les filles, une équipe très forte, qui a gagné des titres aussi, je vais venir. Et la Suisse. Le groupe D, maintenant, pour terminer, pour boucler la boucle, c'est l'équipe de France.
J'allais dire, il n'y a pas la France.
Oui, dans le dernier. Bon, un groupe plus à leur portée, sûrement, que dans le groupe B.
Et donc, vas-y, il y a qui d'autre?
On retrouve la Belgique, la France, oui, elle vient de chez nous, l'Islande et l'Italie. Alors, figurez-vous que les 10, 14 et 18 juillet, il y aura les matchs d'équipe de France. Donc, en fait, c'est...
Les matchs de poule,
ouais,
c'est
tous
ça,
les 4 jours, tous les 4 jours. C'est à ce rythme-là, ça peut fatiguer les organismes. Dans cette de Rotterdam, à chaque fois. Et donc, l'Allemagne jouait les 8 titres, plus de précision, 89-2013. La Norvège avec 2 titres, de 87 et 93. La Suède seulement une fois, en 84. Et le pays...
Pays-Bas,
ouais. Champion d'Europe en titre 2017. Et c'est 4-2 face au Danemark encore une fois. Voilà, deux rechefs. Merci.
Le foot féminin, ça te parle? Tu as déjà travaillé avec des clubs ou des équipes féminines?
Non, mais ça serait une belle aventure. Par contre, on parle de sport féminin. Moi, j'ai vibré hier soir, pour ceux qui ont regardé, une équipe française qui est championne du monde de basket en 3x3, 3 contre 3, discipline olympique.
Le Canada.
Et ils ont battu le Canada hier soir, et elle est championne du monde, cette équipe française. Et les garçons ont été éliminés en demi-finale face aux Lituaniens, aussi un match de dingue. Donc on a quand même deux équipes pour les prochains JO 2024 en 3x3, et les filles ont été grandioses.
C'est pas 18-12 contre les
Danois. Elles
avaient déjà été fortes aux précédents Jeux Olympiques.
Ah ouais. Mais là elles ont été. Là, elles ont explosé, c'était magnifique.
Je voulais ajouter un mot de rugby.
Rapidement, parce que.
Bravo à Montpellier pour son premier bouclier de bonus contre Castres. Voilà, Montpellier contre Castres. Merci.
On va maintenant passer à la chronique santé avec notre invité Stéphane Bijard. Jingle.
C'est l'heure des médicaments. c'est surtout l'heure de la chronique santé de Margot.
Donc aujourd'hui, c'est la chronique santé de Stéphane Bijard, notre invité, parce qu'il y a un moment dans le livre où ton personnage subit une situation de stress, de déception, de je sais pas trop comment décrire ça. Et tu parles d'une technique de respiration qui s'appelle le Samavriti. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je pense que c'est quelque chose qui pourrait servir à tout le monde dans toute situation.
Exactement, le Samavriti. Alors, en français, c'est la respiration au carré. On appelle ça au carré. Alors, il y a une manière très simple de le faire. On peut tous le faire autour là, de nos micros. Donc, vous allez fermer les yeux. Et pendant 5 secondes, vous allez respirer. Et ensuite, vous allez souffler pendant 5 secondes. Et on recommence. Et on souffle. On fait une troisième fois. Voilà. Alors, on peut faire ça pendant 3-4 minutes. Ça, c'est la manière la plus simple de le faire. Et à chaque fois, vous allez réguler la fréquence cardiaque. Ça, on va réguler le cœur, les battements du cœur. Et alors, le Samavriti, c'est un tout petit peu plus élaboré parce qu'on va faire la même chose. On va faire 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'apnée, 5 secondes d'expiration, 5 secondes d'apnée. On essaie une fois ensemble ?
Allez.
Allez, on y va. On respire. On souffle. Apnée. On inspire. On bloque. On souffle. Et on bloque. Voilà. Dès que vous êtes un peu stressé, vous faites ça un petit peu, ça va vous faire un bien fou. Respiration au carré.
Merci, docteur Bijard.
On peut faire ça 2-3 fois par jour quand on sent, ça détend, ça régule le cœur, la fréquentation. Enfin, voilà. C'est un super régulateur.
D'accord. Merci beaucoup.
Merci, Stéphane. La suite de l'émission, c'est l'actu service avec Fred.